lettre coréenne. Bonjour et bonne et heureuse année 2022 à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce tout premier numéro de Lettres coréennes de cette nouvelle année. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Park Wan-seo, Huit chapeaux et toi.
Il y a huit chapeaux pour hommes dans le compartiment supérieur de ma commode en polonia à deux tiroirs. Celui de dessous est vide. Au-dessus de la commode se trouve une photo d'un homme. Il sourit, mais de manière triste et impénétrable.
Ainsi commence « Huit chapeaux et toi » de Park Wan-seo. Publiée en 1991, cette nouvelle autobiographique décrit les regrets nostalgiques de la narratrice au souvenir de son mari, décédé d'un cancer du poumon.
Ses huit chapeaux ont été achetés au cours de la dernière année avant sa mort. Les couvre-chefs ne sont plus à la mode à l'époque où nous vivons, mais il en a collectionné pas moins de huit pendant un an. On aurait pu le prendre pour un dandy passionné par la mode, mais ce n'était pas du tout le cas. La dernière année avec lui a été si précieuse. Rien n'est comparable au temps inestimable passé avec quelqu'un promis à une mort certaine. Le temps s'écoulait comme un courant rapide et brillait trop souvent. L'éclat de ce temps cher était différent de celui du bonheur. Ces huit chapeaux contiennent les souvenirs de cette période brillante, les souvenirs que je suis la seule à garder.
Le 63e anniversaire du mari approchait lorsque sa maladie a été découverte. La toux matinale de ce fumeur de longue date était en effet le signe du cancer du poumon. Bien que détectée tôt, la maladie progressait rapidement et il était impossible d'effectuer une intervention chirurgicale. Le jour où il est sorti de l'hôpital après sa première chimiothérapie, il a vomi tout ce qu'il avait mangé à midi. Puis, il a décidé d'aller travailler dans son bureau, comme si de rien n'était.
« As-tu perdu la tête ? Laisse-moi faire ce que je veux. »
Il avait l'air si déterminé et si triste que sa femme n'a pas pu l'en dissuader. Ils ont repris ainsi leur routine quotidienne.
Il se rendait et rentrait du boulot en bus à heure fixe. La seule chose qui a changé, c'est que j'avais le cœur plein de gratitude, puisque tout était comme avant. J'étais tellement reconnaissante que j'avais même peur de le dire à voix haute.
Quelques semaines après sa première chimiothérapie, les cheveux du mari ont commencé à tomber. Dès lors, les enfants lui offraient des chapeaux. La femme se rappelle sa jeunesse. Un beau jour de printemps pendant la guerre de Corée, le couple s'est fiancé. Mais la famille de notre narratrice était tellement pauvre qu'elle n'avait pas les moyens de lui acheter quoi que ce soit pour le mariage.
J'ai dit à l'improviste que moi aussi je voulais lui offrir quelque chose. Je n'avais pas donné mon dernier salaire à ma mère. Je l'avais gardé pour moi. « Je veux t'acheter un chapeau de première qualité. Je vais bientôt m'en acheter un, ne t'inquiète pas. Je veux t'en acheter un, Ça va coûter très cher. Nous avons fouillé toutes les boutiques de produits importés dans le quartier Myeongdong et avons trouvé un chapeau Fedora parfait. C'est un produit haut de gamme avec une étiquette de marque Pilgrim cousue à l'intérieur. Le chapeau en laine d'un élégant gris clair avec un ruban de soie d'un gris un peu plus foncé était léger et doux et il y allait vraiment bien. Je me suis dit que c'était à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de lui. Pour de vrai, ça prend le bonheur en secret. Si les ancêtres appelaient une fille, sans doute une mariée avec seulement un peigne glissé dans la ceinture, moi, j'étais une mariée avec seulement un chapeau Fedora.
Voici Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous explique la signification de ce chapeau pour la nouvelle mariée.
이 소설 속에 등장하는 주인공이 남편과 결혼할 시작.
La narratrice de cette histoire s'est mariée avant même la fin de la guerre de Corée. La plupart des marchandises ont été importées, tout comme cet élégant chapeau Fedora abritant une étiquette en anglais. Sa famille n'avait rien à lui donner et elle n'avait qu'un mois de salaire, celui qu'elle avait gardé pour elle. Elle a fini par dépenser tout son argent pour acheter un chapeau chic pour son fils. Futur mari. Ce chapeau représente donc l'amour profond de ce couple indissociable.
Notre narratrice n'a cessé de se renseigner sur des remèdes populaires contre le cancer et de donner des médicaments et de la nourriture à son époux. Parfois, elle est menacée, parfois, elle suppliait de les prendre.
Chérie, faisons confiance à la médecine moderne. Deux de nos enfants sont médecins. Nous devrions au moins avoir confiance en nous, hein, n'est-ce pas?
Elle n'était pas convaincue, mais elle ne pouvait plus le forcer. Tout ce qu'elle pouvait faire désormais était de cuisiner les plats préférés du malade.
C'était agréable de pouvoir jeter un coup d'œil de temps à autre vers l'arrêt de bus depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je préparais le dîner. C'était encore plus agréable quand il portait un chapeau. Même avec ma vision floue, je pouvais facilement le repérer dans une foule de passagers descendant du bus. Quand il franchissait la porte, excité à l'idée de prendre un délicieux dîner, je me dépêchais de l'accueillir et de déposer son chapeau comme je le faisais lorsque nous étions jeunes mariés. Il devenait de plus en plus beau à mes yeux, malgré sa tête chauve comme celle d'un nouveau-né. C'était une pure illusion née de ma fascination pour le fait qu'il était en vie. Lorsque nous nous mettions à table pour un repas copieux, nous oublions nos soucis, éclipsés par notre sincère reconnaissance pour la vie et par notre amour l'un pour l'autre. Ce bol de ragoût de tofu cuit à son goût était si précieux que je ne l'aurais pas échangé contre tous les trésors du monde. Alors que d'autres s'inquiétaient de ce qui pourrait arriver dans 10 ans ou planifiaient leur avenir, nous nous accrochions à chaque instant. Aucun être vivant ne peut échapper à la mort. Même les animaux, lorsqu'ils sont malades ou blessés, souffrent et trouvent des moyens de se soigner. Mais c'est le sombre destin des êtres humains de chérir le peu de temps qui leur reste jusqu'à la mort et de réfléchir à la manière de savourer et d'aimer la vie. En tant qu'humain, il avait choisi de passer ce temps précieux comme à son habitude et le mieux que je pouvais faire était de concentrer toute mon attention sur lui à chaque instant.
Ainsi, le couple profitait-il pleinement des moments chers du quotidien? Voici la critique littéraire Chen Soyoung qui nous en dit un peu plus là-dessus.
이 소설에서 두드러지는 것은 부부가 특별한 일을 하지 않고
Le couple dans cette histoire continue sa vie de tous les jours sans essayer de faire quelque chose de spécial. Cela illustre à quel point la routine quotidienne est primordiale pour les personnes confrontées à la mort. La narratrice et son époux font de leur mieux pour mener une vie très ordinaire alors qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps. Il est naturel de nous sentir effrayés et tristes à l'approche de la mort, mais c'est à nous, les êtres humains, de décider comment passer le temps qui nous reste. Le couple dans l'histoire montre que la meilleure façon de faire face à la fin de vie est de chérir le présent.
Le mari avait maintenant 7 chapeaux.
Ce jour-là aussi, je regardais par la fenêtre de la cuisine. Mon mari se dirigeait vers la maison. Il portait un chapeau à rayures brunes. J'ai tout de suite remarqué qu'il avait une allure étrange. Il chancelait comme s'il voulait se détourner de sa route.
Dès qu'ils ont appris la nouvelle, les enfants ont immédiatement emmené leur père à l'hôpital. Mais le service a été fermé en raison d'une grève. Il n'a pas pu voir le médecin.
Que faites-vous là alors que mon mari est en train de mourir? Pitié, sauvez-lui la vie! Ma colère montait. C'était une époque marquée par de nombreuses grèves. Même si j'ai connu autant d'ennuis et de soucis que les autres, je n'ai jamais douté d'être du côté des ouvriers. Ma conscience morale me disait d'être toujours pour les opprimés plutôt que pour les oppresseurs, les démunis plutôt que les nantis. Mais lorsque j'ai vu les travailleurs exercer leurs droits, j'ai ressenti de l'animosité plutôt que de la camaraderie et je n'ai pas pu contenir la colère qui bouillonnait en moi. Peut-être était-ce à cause du désespoir et du complexe de victime ressenti par quelqu'un mis devant une situation sans issue.
Ils ont finalement réussi à prendre rendez-vous dans un autre hôpital pour le lendemain. Alors qu'ils ont perdu beaucoup de temps et d'énergie à chercher l'entrée de l'immeuble, la rage que la narratrice avait ressentie la veille a de nouveau débordé. Elle a fini par s'emporter contre son mari.
Essaie de marcher droit, pas comme un crabe qui cherche une cachette. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis comme une souris coincée dans une fissure. En effet, tu ne t'es jamais retrouvée dans une fissure, n'est-ce pas?
Le médecin leur a annoncé que le mari avait des métastases au cerveau. Le malade a subi une radiothérapie si forte qu'elle lui a laissé une brûlure sur le front, mais son état ne s'est guère amélioré. Leur fille cadette est rentrée des États-Unis.
Je lui ai dit d'acheter un chapeau pour son père et je n'ai pas oublié de dire d'en trouver un de première qualité.
Ce 8e chapeau est devenu le dernier de son mari.
Que voulait-il dire quand il a dit que je n'avais jamais été coincée dans une fissure? Cette question me préoccupe toujours. Quand je suis mal accueillie à la mairie du quartier ou au centre des impôts pour les affaires dont mon mari s'occupait de son vivant, je me dis que c'est peut-être la fissure dont il parlait. Quand il m'est difficile de choisir un camp, comme avant, entre les employeurs et les employés, entre les nantis et les démunis, entre les attaquants et les défenseurs, entre les forces pro-unification et anti-unification de la péninsule coréenne, cette question de la fissure ressurgit et me hante. Pour me retrouver coincé dans une fissure, je devrais peut-être trouver un souple de situation difficile prise entre deux voies rugueuses. Peut-être suis-je devenue trop sérieuse à propos de sa simple remarque compatissante. Il a pu faire un tel commentaire parce qu'il était capable d'observer ma colère brute depuis la fissure entre la vie et la mort. Pourtant, cette question me pèse toujours. Tout comme ces chapeaux laissés derrière lui signifient bien plus que de simples chapeaux, la fissure est une question que je devrais me poser sans cesse.
Pourquoi donc le mari a-t-il parlé de fissure? Retrouvons la critique littéraire Chun Soyeon qui répond à cette question.
Une fissure peut être interprétée de différentes manières. Étant donné que le mari l'a mentionné à sa femme lorsqu'il se trouvait entre la vie et la mort, il voulait probablement qu'elle ne soit pas influencée par la dichotomie et qu'elle soit tolérante pour les deux côtés. Nous avons tendance à appliquer la dichotomie à de nombreux problèmes, à choisir un camp et parfois à prendre des mesures extrêmes pour défendre nos choix. Mais le mari mourant a compris la futilité de tout cela et a laissé un subtil message à sa femme afin qu'elle ne perde pas son temps pour des choses inutiles.
남은 삶을 불필요한 다툼에 소모하지 않도록 이 틈바구니의 메시지를 넌지시 남겨준 것이 아닌가 싶습니다.
아시 se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à Huit chapeaux et toi de Park Wan-seo. C'était Yun Yin-hee au micro avec Yoon Woo-mi au doublage et Woo Ha-young à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle Corée la semaine prochaine. Au revoir.